cette dernière rencontre, la mystique peut-elle sauver la foi? Alors, bien sûr, je vais m'expliquer sur ce titre qui reste énigmatique à ce stade, en nous redisant un peu le parcours qu'on a voulu faire ensemble pendant ces deux, trois mois de nos 10 rencontres. La question finalement qui sous-tendait nos rencontres était toujours la même. C'est celle que je pose en introduction, hein. Pourquoi ce Dieu-là au XXIe siècle? Et quand je dis ce Dieu-là, bien sûr, ce Dieu de la révélation judéo-chrétienne. Pourquoi ce Dieu-là au XXIe siècle, hein? Ce cours, finalement, est parti d'une question grave que tout croyant devrait se poser à nouveau, régulièrement à nouveau, pour choisir la foi. La question de Dieu se pose-t-elle encore aujourd'hui? Et c'était notre point de départ. La question de Dieu se pose-t-elle encore aujourd'hui? Et peut-être que dans nos différents contextes que nous côtoyons, eh bien, il se peut qu'elle se pose plus ou moins, peut-être pas du tout. Et en ce début du XXIe siècle, bien souvent, le croyant habite dans un monde qui n'est plus chrétien, et peut-être l'est de moins en moins. Alors, on a dû refaire tout un parcours finalement pour se dire, mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Que ce Dieu-là de la révélation judéo-chrétienne soit si discret finalement dans certains de nos lieux de vie. Eh bien, nous avons vu que la foi est passée par une sorte de lessiveuse avec l'émergence de la modernité qui questionne tout. Tout ce qui a été acquis par simple tradition, si ce n'est par simple automatisme non questionné. Hein, tout ce que nous avons reçu, peut-être sans en avoir conscience, eh bien, tout cela est questionné par la modernité. La modernité, c'est la remise en question de ce que nous avons acquis par automatisme, par tradition, par transmission. Et du coup, nous sommes héritiers d'une foi qui est passée par cette lessiveuse-là de la modernité. Et nous avons vu dans le premier cours que la sécularisation, ce qu'on appelle la sécularisation, est venue comme consacrer ce processus de la modernité par une sortie de la société, hein, de toute référence chrétienne. Alors, bien sûr, là, peut-être qu'on exagère un peu le propos parce qu'il peut y avoir quelques miettes encore de références chrétiennes dans nos institutions, dans nos espaces publics. Il y en a quelques-unes encore, mais qui sont bien souvent discrètes, et voire cachées. Pourtant, dès le premier cours, hein, je l'avais dit aussi, on peut parler d'une sorte de retour du religieux. L'effacement finalement de la foi judéo-chrétienne ne correspond pas toujours à un effacement pur et simple du religieux dans sa totalité. Mais celui-ci, ce retour du religieux, se fait sur la base d'un abandon de toute référence ancienne, d'un côté. Donc ça, c'est une des tendances, c'est-à-dire c'est l'abandon de toute référence ancienne, ou d'un autre côté, sur la base d'un réflexe identitaire de protection. Puisque c'est en train d'échapper, il faut le protéger comme une citadelle assiégée. Il faut renforcer les remparts. Il faut les solidifier. Deuxième logique. Je vous donne une citation dans l'introduction là, d'un blogueur qui est assez connu dans une sphère qu'on appelle la sphère des collapsologues. Ce sont les théoriciens de l'effondrement. Là, c'est un collapsologue canadien assez connu, hein, qui dit « La plupart des gens que j'ai rencontrés et qui ont choisi une voie intérieure, et il y en a aujourd'hui, confèrent aussi peu d'utilité à la religion traditionnelle que leurs homologues sur la voie extérieure n'en confèrent à la politique traditionnelle. » Une sorte de désillusion de toute une génération par rapport à ce qui est du ressort d'une religion traditionnelle, et là je parle des grandes religions monothéistes, comme une totale désillusion d'une grande partie d'une génération vis-à-vis de la politique traditionnelle. Ce qui dit un état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui se pose à nous, finalement, comme question, hein? Eh bien, nous avons à chercher nous-mêmes, à scruter la pertinence de la foi dans ce Dieu-là de la révélation chrétienne, comme un Dieu qui se communique lui-même au milieu de l'histoire de ce monde et lui propose un projet toujours neuf, un projet dont une étape décisive fut la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Notre parcours n'a eu de cesse finalement de vérifier, d'essayer de vérifier hein, en quoi ce Dieu-là, qui s'est révélé à ce peuple d'Israël dans un certain contexte, un contexte de divinité païenne, un contexte de conflit entre nations, un contexte mésopotamien culturellement inscrit, comment ce Dieu-là de la révélation chrétienne, 4000, 5000 ans après, hein, garde sa pertinence, garde sa vérité, et que cette vérité a eu une étape décisive dans un événement fondateur, qu'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la question grave que nous nous sommes posées. Comment est-il possible encore aujourd'hui de croire en ce Dieu-là de la révélation? Pas simplement par automatisme, pas simplement par tradition, pas simplement parce que je l'ai reçu, mais parce que je le choisis comme fondement d'une existence vraiment humaine. Parce que je le choisis comme fondement d'un appel profond à réaliser ce que je suis et ce que je dois devenir. Alors, on a fait tout un parcours pour se redire, mais qui c'est ce Dieu-là, hein? Qui sait si ce n'est pas finalement un Dieu qui n'attend que des sacrifices, qui attend d'être satisfait pour, en échange de cette satisfaction, nous donner quelque chose? Qui c'est ce Dieu-là qui veut le salut de notre humanité? Qui c'est ce Dieu-là qui a créé toute chose selon un projet, et un projet qui est dont le dynamisme est l'amour? Qui est ce Dieu-là qui a voulu se rendre proche de notre humanité jusqu'à s'incarner, jusqu'à se faire homme parmi les hommes? Qui est ce Dieu-là qui nous invite nous-mêmes à en vivre aujourd'hui par l'accueil de son esprit? On a fait tout ce parcours-là. Alors, en cette fin de parcours, eh bien, je voudrais revenir à l'originalité du croire chrétien, puisque ma question grave, c'est comment croire encore à ce Dieu-là aujourd'hui? Eh bien, je crois que pour y croire, il faut sans cesse revenir à l'originalité du croire chrétien. Qu'est-ce que croire quand on se dit chrétien? Premier petit point, eh bien, je pense qu'il nous faut sortir d'une fausse alternative. D'une première fausse alternative qui est celle de croyance-confiance. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Comment sortir de l'alternative croyance-confiance? La foi en Dieu est souvent vue, souvent la plupart du temps, et compris parmi nos contemporains qui se sont éloignés de cette foi, hein, souvent vue comme un assentiment intellectuel donné à des croyances. Il faudrait croire à des énoncés. Mais alors, j'ai bien du mal à croire à des énoncés. Parce que ces énoncés, j'ai l'impression qu'ils sont un peu vieillis. Hein, récemment, je parlais à un jeune, il disait, je comprends pas le terme gloire de Dieu. Pourquoi on dit gloire de Dieu ou gloire à Dieu? Voilà. C'est un terme qui n'est pas compris par une génération. Voilà. La difficulté de certains termes de nos définitions de la foi. Hein. Vous parlez de la rédemption. C'est quoi la rédemption? Donc, si on résume la foi à un assentiment à des énoncés, ça paraît bien compliqué. Ça paraît bien difficile. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la réaction de Luther, qui a dit, mais croyez-vous en des énoncés dont le gage de l'autorité, c'est l'Église, l'Église qui vous dit, mais croyez en cela, et donc je donne mon assentiment à ces énoncés que l'Église me demande de croire. Donc Luther, lui, est arrivé avec cette question. Alors, du coup, il s'est dit, mais la foi, est-ce que ce n'est pas d'abord de l'ordre d'une confiance? Et la foi, c'est de l'ordre de mon sentiment subjectif, de donner crédit à ce Dieu-là. Et la question de la réforme a souvent été radicalisée au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Si bien que la foi est d'abord vue comme un acte de confiance personnelle et subjectif, détaché des données de la tradition et de l'écriture. Je crois si je le sens bien. Et si je le sens pas bien, je vais croire à autre chose. Ou je crois à un moment à ça, et puis à un autre moment, je vais aller voir ailleurs. Parce que mon sentiment a changé. Pendant notre parcours, on n'a pas voulu, bien sûr, mettre en question l'importance d'interpréter la foi comme croyance ou comme confiance. Heureusement qu'on croit à des choses communes. D'ailleurs, on le redit le dimanche, le credo, on le récite ensemble. Donc, heureusement que l'on croit à peu près à la même chose et qu'on est à peu près d'accord sur cette même chose et que ces mêmes choses nous sont redéfinies ou définies ou explicitées par l'Église, par la voix du magistère, de ses pasteurs, par la prédication, par les théologiens, voilà. Heureusement qu'on croit en des choses qui nous sont communes. Donc ça, on ne l'a pas remis en cause. Heureusement aussi que la foi est liée à un acte de confiance. Parce que sinon, il n'y a plus de liberté dans la foi. Ça me serait imposé comme de l'extérieur. Heureusement que je mets ma confiance dans ce Dieu-là. Mais est-ce que la foi n'est pas plus encore que cela? C'est là la question. Est-ce que la foi, ce n'est pas plus simplement que la croyance dans des énoncés? Et est-ce que ce n'est pas plus qu'un acte de confiance personnelle? Eh bien, c'est la thèse que je voudrais défendre. C'est la dernière phrase de mon petit A que j'emprunte à un théologien américain qui s'appelle David Tracy. Si la foi était, comme l'affirme si bien le théologien américain David Tracy, le début de notre union même à Dieu, qui ouvre l'accès à une nouvelle connaissance, infinie plutôt qu'impossible, en libérant dans l'inconscient l'énergie divine qui se trouve dans les dimensions subconscientes ou même inconscientes du soi. Ah, définition un peu compliquée, hein, c'est un article de Tracy sur le rapport entre la foi et la raison, mais que nous allons expliciter en suivant tout à l'heure un itinéraire qui est l'itinéraire de la foi de Moïse, retracé par un théologien patristique, un père de l'Église, hein, Saint Grégoire de Nice. Mais vous voyez bien que la foi, c'est plus qu'un assentiment à des croyances, c'est plus qu'un acte de confiance, c'est déjà le début de notre union même à Dieu. C'est déjà un lien construit avec Dieu, et c'est à l'intérieur de ce lien que nous grandissons toujours dans une nouvelle connaissance de ce qu'est Dieu et de ce que nous sommes. Et que cette nouvelle connaissance, elle est infinie, elle n'a pas de limite, plutôt qu'impossible, comme le pensent peut-être un certain nombre de nos contemporains, pensant que la connaissance de Dieu serait impossible. Nous pensons que dans une union à Dieu, dans un lien de communion avec lui, eh bien la connaissance devient infinie, plutôt qu'impossible. Et comment ça marche? En libérant en nous l'énergie de Dieu qui agit. Et qui agit peut-être malgré nous. David Tracy dit à la fois dans notre inconscient et dans notre subconscient. Peut-être qu'on n'a pas conscience de tout ce que Dieu produit en nous, et pourtant, il ne cesse de produire en nous, de nous attirer à lui, de nous faire connaître ses desseins, ses projets, de nous faire connaître ses désirs, sa volonté, de nous attirer vers le bien plutôt que vers les pièges du mal, etc. etc. On va expliciter cette définition-là de la foi en faisant un petit parcours tout à l'heure de ce que Moïse a pu vivre de l'expérience de la rencontre de Dieu. Vous voyez, premier point que je voulais dire, revenir à l'originalité du croire chrétien, c'est sortir d'une fausse alternative entre croyance et confiance. Pour voir que la foi, c'est bien plus que cela. C'est déjà l'union à Dieu dans laquelle nous sommes et qui nous fait sans cesse grandir dans une plus grande connaissance de lui et de nous, de notre vocation, de ce à quoi nous sommes. Bien sûr, il a fallu pour ça que nous acceptions d'entrer dans cette union. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que dans la définition que j'avais posée au début du cours, oser maintenir la question de Dieu. Il a fallu, en effet, un jour, que nous acceptions d'établir un lien avec Dieu. Un lien bien mystérieux. Un lien qui passe par... différentes sphères de notre humanité. Ça peut être un lien qui passe par le sensible, qui passe par l'intelligence, qui passe par les émotions, qui passe par la ritualité, qui passe par la lecture, que ce soit de la parole ou de livres spirituels, qui passe par la théologie. Voilà. Il a fallu que nous osions tisser ce lien, et c'est à l'intérieur de ce lien que la foi peut grandir. Et c'est la difficulté, en effet, peut-être, d'un certain nombre de nos contemporains d'accepter de nouer ce lien sans savoir, finalement, jusqu'où ça nous mène. Deuxième alternative qu'il me semble devoir écarter pour entrer véritablement dans la foi au XXIe siècle, sortir de l'alternative religieuse entre logique d'indifférenciation et logique identitaire. Je m'explique. Qu'est-ce que j'appelle la logique d'indifférenciation? Ça correspond au fait que toutes les religions se valent ou qu'il faut chercher un principe du religieux qui surplombe toutes les formes institutionnelles du religieux. Une sorte de syncrétisme. On a dépassé un vieux syncrétisme qui était un peu la religion du New Age où on prenait un peu différents éléments de chaque religion et puis on se construisait un petit peu une vie religieuse à partir de tous ces éléments pour penser finalement une sorte de principe du religieux qui serait au-delà de toutes les formes institutionnelles du religieux. Partant du fait que toutes les religions se valent, mais sans qu'on pèse la valeur de chacune, finalement. Ça, c'est une logique d'indifférenciation. Et qui est, encore une fois, assez à l'œuvre. Vous savez que aujourd'hui, c'est un domaine qui m'intéresse, parce que On m'a demandé de m'y intéresser aussi, toute la sphère justement des collapsologues, hein, des théoriciens de l'effondrement, qui est une sphère de plus en plus importante, hein, pense qu'il faut revenir à un principe spirituel. Pense qu'il est nécessaire de retrouver une intériorité. Si on veut finalement trouver une issue à l'effondrement qui serait devant nous, il faudrait revenir à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver un principe d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie en société. Donc, il y a une idée de principe de spiritualité, mais qui est déliée de toute référence institutionnelle, de toute référence religieuse traditionnelle. De l'autre côté, il y a une autre logique à l'œuvre en face de celle-là, hein, je voudrais dire, c'est la logique identitaire du religieux, qui vise à faire prévaloir une forme religieuse précise comme supérieure aux autres quêtes du religieux et en opposition aux autres formes du religieux. Voilà, c'est la logique communautariste, c'est le conflit des religions, c'est le conflit des civilisations. C'est finalement de se dire, on est tellement dans un monde incertain qu'il faut se recentrer dans nos certitudes. Et se recentrer dans nos certitudes contre les autres certitudes. Alors, dans notre parcours, justement, nous avons montré dans ce cours que le Dieu de la révélation judéo-chrétienne n'est ni un Dieu parmi les dieux, donc ce n'est pas un Dieu indifférencié, ni un Dieu national, donc ce n'est pas un Dieu identitaire. Hein. On avait vu qu'il serait supérieur au Dieu des autres nations. On avait vu combien l'expérience de l'exil à Babylone a été une expérience de remise en question. D'une idée d'un dieu national qui serait supérieur aux autres et qui était très présente dans le paganisme, dans les mythes païens mésopotamiens. Donc, c'est ni un dieu indifférencié parmi les autres, parce que peu à peu, le Yahvé d'Israël devient le dieu un, le seul qui est habilité à être dans le temple de Jérusalem. Mais c'est pas non plus un dieu national qui serait supérieur aux autres, parce que ben il n'a pas empêché l'exil à Babylone, mais un dieu plutôt qui attire l'universalité des peuples et des cultures, car il se manifeste comme singulier et universel. Et on a vu dans ce cours comment en Jésus-Christ se dit à la fois la singularité de Dieu qui choisit de s'incarner dans un temps, dans une culture, dans un mode de vie, dans un mode d'être, de relation, hein, singularité et universalité. Il attire tout le cosmos, tout l'univers vers lui comme principe de salut. Donc il ne peut pas... Ce Dieu qui se révèle ainsi ne peut pas nous laisser nous enfermer ni dans l'indifférenciation, hein, ni dans une logique identitaire qui ferait que le salut ne serait plus universel. Alors, on va, pour essayer de vérifier, hein, cette sortie finalement, hein, cette sortie à la fois d'une fausse alternative du rapport entre confiance et croyance, pour sortir d'une fausse alternative entre une logique indifférenciée du religieux et une logique identitaire, eh bien, on va revenir à un principe, j'oserais dire un principe de base de la vie religieuse, qui est l'expérience mystique. Qui est l'expérience mystique? Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce cours La mystique peut-elle sauver la foi? Au cœur de toute foi, il y a une expérience mystique de la rencontre de Dieu. Et on va voir comment se joue cette expérience, comment elle se vit. J'ai fini mon grand 1 là, mais du coup, on peut faire une petite pause pour voilà, s'il y a des questions, des réactions à ces premières, à ces premiers propos, on va dire déjà conclusifs de l'ensemble de notre parcours. Vous pouvez aussi toujours utiliser la fonction converser de Zoom, mais sinon, vous pouvez me poser ou réagir à l'oral si vous voulez.
Allô? Oui?
Vous
Vous
m'entendez?
m'entendez?
Oui, très bien.
Je vais peut-être vous poser une question qui va paraître saugrenue,
N'y a pas de question.
mais je voudrais avoir votre opinion. Ou, enfin, est-ce que vous ne pensez pas quand même que le fait que l'Europe, enfin plutôt que la France, n'ait pas marqué que signaler que la France avait des origines chrétiennes dans la Constitution, et ne croyez pas que ça peut participer à, finalement à cette. Enfin, cette diminution de la foi, enfin, est-ce que ça peut y avoir un impact quelque part sur la foi?
Ah, là, je pense que vous posez une question finalement qui est liée à un constat que nous devons faire, hein, qui est la sortie. Finalement, je pense que le fait que ces racines n'aient pas été inscrites dans la Constitution ne sont que le résultat d'un long processus qui est la sortie de la chrétienté. C'est-à-dire la sortie de ce lien fort et quasi intrinsèque entre qui est né au quatrième siècle de notre ère entre l'Empire et la foi chrétienne avec la conversion de Constantin au christianisme en 313. Donc ce n'est que le résultat finalement d'une sortie de cette ère-là. Alors on peut se dire est-ce que c'est une menace pour la foi ou une chance pour la foi? La réponse, finalement, chacun peut la donner, mais ça n'est que le résultat d'un processus qui à la fois n'est pas vraiment surprenant, puisqu'il y a eu tout un processus pour arriver à cet effacement. Et la question que je pense qu'elle nous pose à ceux qui se revendiquent et à qui de cette foi-là, c'est comment rendre compte de la pertinence. Et quand je dis rendre compte, je pense à la première lettre de Pierre au chapitre 3, verset 13, hein, rendre compte, rendre raison de l'espérance qui est en vous les chrétiens. Et du coup, c'est plus un défi posé aux chrétiens qu'une sorte d'offense à nos origines. Moi, je le vois plus comme ça, personnellement. C'est-à-dire, je me dis, mais c'est plutôt l'occasion, finalement, s'il y a cet effacement, de dire, ben, c'est comme dans une famille où quelqu'un dirait, mais moi, j'ai plus envie de croire, ou j'ai plus envie de vivre hein, de cette foi que tu m'as transmise, petit ou petite, voilà, j'ai envie d'aller voir ailleurs, ou eh bien, vous avez plusieurs manières de réagir à cela, certainement. Et je ne veux pas juger de chacune des manières, mais moi, ma manière, c'est de dire, mais est-ce que je peux continuer à témoigner de ce Dieu-là? Et comment? Dans un monde qui semble s'en éloigner.
C'est Bénédicte. Moi, j'ai une question. Est-ce que cette recherche de spiritualité que vous trouvez même chez les collapsologues, est-ce que ça peut pas être un chemin aussi vers la foi?
Moi, je crois beaucoup, hein, c'est-à-dire que je dialogue avec eux, donc je vois un petit peu ce qui est en eux et ce qui sont un peu leurs recherches. Et je vais y venir, hein, je pense que dans 3 semaines, là, je vais faire une conférence sur espérance chrétienne et récit d'effondrement, justement. Et je pense qu'on doit revenir à la source de notre espérance, c'est-à-dire, et on va trouver qu'on a à la fois des points communs, c'est-à-dire que le problème des chrétiens, c'est ma conclusion d'aujourd'hui, mais c'est d'avoir souvent relayé l'espérance, pardon, à un monde à venir, à un monde autre. Et là, un certain nombre de collapsologues finalement nous ramènent à la réalité. Ils nous disent la réalité, elle est sombre, elle est menaçante. En même temps, si on refuse de regarder la réalité, eh bien, on continue d'entrer dans une logique de destruction de nous-mêmes. Je pense que l'espérance chrétienne est une espérance réaliste. Ce n'est pas une espérance pour un monde d'après ou pour un monde d'ailleurs. C'est une espérance qui nous ramène au réel d'aujourd'hui et qui nous dit, mais comment est-ce que je mets en œuvre la transformation que la victoire du Christ mort et ressuscité a inaugurée. Une transformation dont le dynamisme est l'amour. Comment je la mets en œuvre concrètement dans la réalité telle qu'elle est aujourd'hui? Donc, de fait, on peut se retrouver et on peut se retrouver sans abandonner, loin de là, la singularité de Jésus-Christ.
Et alors, vous avez commencé à répondre partiellement à la suite de ma question qui était de dire donc, quel est notre rôle à nous chrétiens, justement, pour permettre à cette nouvelle recherche de spiritualité d'aboutir vers la foi. Donc, je pense que déjà, effectivement, en nous recentrant sur aujourd'hui, et non pas avec la promesse du salut dans une vie postérieure, ça, je pense que c'est important. Mais est-ce que nous, dans notre témoignage quotidien, entre guillemets, quel est...
Moi, je crois qu'il y a
quel est notre rôle pour attirer ces gens vers la foi, quoi.
Ouais. Je crois qu'il y a un élément clé qui est l'attention aux plus vulnérables. C'est-à-dire que ce que critique, on va dire, un grand nombre de ces personnes, c'est le schème de la domination. C'est-à-dire qu'ils ils relisent l'histoire occidentale comme une histoire de la domination. Domination de la nature, domination par le progrès technologique, enfin, que le paradigme technologique était le seul et unique paradigme à l'œuvre, domination sociale aussi. Je crois que la foi chrétienne nous invite à remettre au centre et à faire de la référence première de toute vie en société le plus petit, le plus fragile, le plus vulnérable, et accepter nos propres vulnérabilités, nos propres fragilités, quoi. Ne pas les oublier nous-mêmes. Je crois que c'est là le lieu, finalement, c'est quel est notre rapport au plus fragile, à nos fragilités, à nos vulnérabilités dans le quotidien, ou est-ce que nous donnons finalement l'image de toujours éviter finalement ces fragilités, ces vulnérabilités au nom d'une force qui nous viendrait d'ailleurs, quoi. Donc, je pense que c'est...
Ouais. Bon, c'est le cœur du message quand même, le plus petit, le plus faible,
hein. Ouais. Je pense que c'est là le cœur du témoignage aujourd'hui de la foi chrétienne dans ce monde. Et c'est souvent là, si vous voulez, hein, c'est là qu'on voit, hein, même dans les enquêtes, hein, que la foi chrétienne garde sa grande pertinence, hein. C'est dans son attention au plus petit.
Merci d'avoir recentré.
Merci.
Je voudrais savoir, j'ai l'impression que, en fait, l'itinéraire vers la foi est plutôt décrit comme quelque chose d'individuel. Alors que pour moi, c'est clairement très collectif et c'est lié à la communauté qui donne une force très grande. Est-ce que vous pouvez en parler de cet aspect-là?
Oui, alors je vais y venir avec mon cher Moïse, hein, bien sûr. Mais en effet, hein, c'est-à-dire que notre foi s'inscrit, je vais le redire, hein, dans une mémoire collective de cet événement fondateur de la mort et de la résurrection du Christ et de la manière de vivre à partir de cet événement fondateur, en effet, collectivement et pas simplement individuellement. Donc, elle s'inscrit à l'intérieur. Notre foi individuelle s'inscrit à l'intérieur de cette mémoire vivante, hein, de la mort et de la résurrection du Christ. Et cette mémoire, nous la célébrons, nous la vivons aussi dans notre rapport au monde, dans notre vie morale collective. Ça, bien sûr. Et on va le voir, hein, parce que souvent la mystique, elle est vue comme une affaire un peu individuelle. Hein, et là, on va voir que Grégoire de Nice, relisant un peu un itinéraire mystique, sera tenté, hein, dans un premier temps par le voir d'un point de vue assez individuel, et en même temps Vous allez voir qu'il l'inscrit de manière très, très collective. Ouais. Merci ouais, de cette précision.
Merci. Ouais.
La conférence sera au Centre Sèvres le 2 février, au Centre Sèvres. Je ne sais plus à quelle heure exactement, mais c'est dans la soirée, ce sera communiqué. C'est les mardis de l'éthique hein, du Centre Sèvres.
Ah, vous pourrez participer alors.
Oui, c'est public, c'est public.
Ah d'accord, merci beaucoup.
Mais... J'ai une question sur le fil par écrit. Ne peut-on penser qu'une certaine étape est franchie à partir du moment où ce que l'on voit autour de soi est l'impossibilité même de se poser, pour les jeunes en grande partie, une question individuelle sur un registre spirituel auquel ils n'ont plus accès? C'est vrai, hein, et c'est un constat que font même aujourd'hui, on va dire, quelques jeunes générations que j'ai citées parmi les collapsologues, c'est cet oubli d'un principe spirituel. Donc, l'espérance vient que certains se disent il faut revenir à une vie intérieure pour permettre des changements extérieurs. Mais de fait, il y a une limite qui peut être passée quand il n'y a plus de référence, en tout cas, d'une vie intérieure féconde et riche, et que tout se passe à l'extérieur.
Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit dans votre réponse à Bénédicte.
Oui.
Vous êtes tout à fait dans ce que le pape dit actuellement, que ce sont les plus petits, les misérables, ceux qui sont à la marge. Alors lui, il va carrément jusqu'aux immigrés, mais il parle des plus petits. C'est vraiment son souci du moment.
Oui, et je pense qu'il est au cœur de la pertinence de la foi chrétienne, c'est-à-dire d'un Dieu qui se fait lui-même petit et qui va vers la brebis. Quand on dit la brebis égarée, ce n'est pas simplement celle qui est égarée par son péché, c'est la brebis qui est perdue parce qu'elle n'est plus peut-être voulue à l'intérieur du troupeau, elle n'est plus accueillie à l'intérieur du troupeau. C'est l'évangile de Marc, de l'aveugle de Bartimée qui est au bord du chemin et que Jésus réintègre sur le chemin. C'est au cœur de l'évangile. C'est ce cœur-là, je crois, qui garde toute sa pertinence et sa force dans notre monde. On continue.
Bonjour mon père.
Pardon, non, allez-y, oui, pardon.
Excusez-moi. Bonjour mon père, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Je voudrais savoir le fait que les croyants et les non-croyants, chacun de son côté s'intéresse beaucoup à l'existence de Dieu. Est-ce que ça ne peut pas nous amener à dire que la foi, elle est commune au fond de tout un chacun, mais seulement les voies pour aller vers ce Dieu sont très différentes. Il y en a qui réfutent la voie, il y en a qui cherche à la suivre, mais que d'une manière ou d'une autre, Dieu existe, qu'on le reconnaisse ou pas, en tout cas par l'intérêt qu'on y porte, on prouve que Dieu existe. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
En fait, vous posez une question qui est ce qu'on appelle communément dans la foi ou dans la théologie, hein, le rapport entre la nature et la grâce. Et un grand théologien du XXe siècle, hein, Henri de Lubac, a repris notamment toute la tradition de saint Thomas d'Aquin en disant mais il y a un désir naturel de Dieu en l'homme.
Voilà.
Il y a un désir naturel de Dieu en l'homme. Comment? Par grâce. C'est-à-dire que Dieu nous attire vers lui naturellement, hein, mais il y a beaucoup d'obstacles à l'accueil de cette grâce pour que ce désir se déploie. Et, 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 Et du coup, bien, un des obstacles, peut-être, c'est celui dont la question de Béatrice ou la remarque de Béatrice, c'est-à-dire que quand on ne parle plus du tout de vie spirituelle à un jeune, il ne sait même pas qu'il peut y avoir une vie intérieure qui le mène vers au-delà de lui-même ou au-delà de ce qu'il voit ou de ce qu'il perçoit autour de lui. Et donc, c'est la prise de conscience que... Mais ce qui est par nature là en l'homme, il est toujours là. C'est ce désir naturel de Dieu.
Oui.
Il existe. Il existe, mais il faut le réveiller, le susciter, l'alimenter, bien sûr.
Moi, je pense que le réveil est là. À partir du moment où on se pose des questions, qu'on essaye de trouver des solutions à ces questions.
Oui.
Mais ce réveil, comme vous dites dans la question de Béatrice, ce réveil n'est pas nourri de la même façon.
Ouais. Oui, ou il peut être aussi un désir qui s'oriente vers une sorte de principe anonyme. C'est-à-dire, il y a une sorte de principe spirituel, et ça, c'est très présent hein, dans un certain nombre de jeunes de notre génération. Il y a un principe quelque part, il y a un principe. Et le principe ne fait pas une rencontre avec un Dieu vivant encore. Et donc, voilà, c'est... Oui. Et comment passer de l'idée qu'il y a un principe à la rencontre avec un Dieu vivant, personnel. On peut établir avec moi une relation personnelle. Hein, ce passage-là, il est compliqué aujourd'hui. Plus compliqué.
Ah, il est bien compliqué.
Alors, ce que je vous propose, justement, c'est de voir comment ça s'opère dans, finalement, un des premiers à avoir fait cette expérience mystique de ce Dieu-là, qui est le personnage de Moïse. Et en passant par un des ce qu'on appelle des premiers pères de l'Église. Donc, c'est aussi l'occasion de vous plonger ou de vous replonger, peut-être pour certains, dans une littérature, hein, une littérature du IVe siècle, hein, après Jésus-Christ, donc une vieille littérature, mais une littérature que l'Église a beaucoup réveillée au XXe siècle, notamment autour du Concile Vatican II. C'est vrai que le Concile Vatican II a été très façonné par la lecture des pères de l'Église. Hein, les pères de l'Église, finalement, c'est les premiers à dire la foi après les évangiles. C'est les premiers à essayer de l'interpréter. Avec, bien sûr, dans leur contexte, qui est un contexte pour la plupart, un contexte marqué par l'influence de la philosophie grecque, gréco-latine. Et puis, ce sont des gens qui ont participé à la formulation de notre foi, puisqu'ils étaient présents au grand concile œcuménique. Et donc, ils ont combattu aussi les hérésies, des déviations finalement de l'interprétation du mystère de la révélation judéo-chrétienne pour établir la foi qui nous tient encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voudrais vous en faire découvrir un parmi les nombreux pères de l'Église, hein, qui s'appelle Grégoire de Nice. Grégoire, c'est l'un des jeunes frères de Basile, évêque de Césarée en Cappadoce, hein. Basile de Césarée, qui est un grand évêque de la Cappadoce, qui est au cœur de la Turquie actuelle. Et Basile et Grégoire naissent eux-mêmes dans une famille de saints. Hein. Leurs grands-parents sont morts martyrs sous Dioclétien, sous le martyr de Dioclétien. Et puis leurs parents sont aussi saints, hein, saint Basile l'Ancien et puis saint Émélia. Était issu d'une noblesse sénatoriale en Cappadoce, donc avait une position assez importante dans l'Empire romain. Ils ont aussi un oncle évêque et trois autres frères et sœurs vont entrer dans la vie ecclésiastique ou ascétique, dont sainte Macrine la Jeune ou saint Pierre de Sébaste. Voilà, une famille de saints hein, quand même. Donc c'est une des caractéristiques hein, des pères de l'Église, c'est que ce qu'ils disent, ce qu'ils énoncent de la foi correspondent à ce qu'ils vivent. Ça, c'est pour ça qu'on peut les qualifier de pères de l'Église. Pas simplement des théologiens qui ont fait de l'érudition. C'est des théologiens qui ont vécu le mystère qu'ils ont annoncé. Et Grégoire de Nice, avec son frère Basile le Grand et ils ont un ami commun qui est Grégoire de Nazianze, sont dénommés par la tradition chrétienne les trois pères, trois grands cappadociens. Ils vont avoir une importance exceptionnelle pour la théologie de l'Église. Avec saint Augustin du côté latin, du côté occidental, hein, donc là on est dans l'Empire romain d'Orient, du côté de l'Empire romain d'Occident, nous aurons saint Augustin, ils vont être un peu hein, nos pères dans la foi, ceux à qui on doit beaucoup de nos énoncés de la foi. Ils vont avoir une carrière brillante hein, de théologien, mais surtout ils vont être évêques, sans le vouloir vraiment d'ailleurs, parce que Grégoire de Nice n'a jamais recherché l'épiscopat et désiré, hein, c'est un peu presque à contre-cœur qu'il devient évêque de Nice. Voilà. Et il va être présent, ça va être une des caractéristiques importantes de Grégoire de Nice, il va être présent au concile de Constantinople II, deuxième concile de Constantinople, d'où nous vient le texte définitif de notre credo. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a une place importante dans la formulation de notre foi que nous récitons tous les dimanches. Quelques caractéristiques de la théologie de Grégoire de Nice, hein, que vous verrez. Hein. Pour Grégoire, l'essence divine, ce qu'est Dieu, ne peut pas être connue, est absolument inconnaissable. Pourquoi ? Parce que l'essence de Dieu, ce qu'est Dieu, est infini. On ne peut pas circonscrire Dieu dans les limites de nos concepts et de nos définitions. Ça dépasse notre langage humain. Hein, et vous savez que Grégoire de Nice s'est battu hein, contre une hérésie, hein, contre Nome, hein, qui disait qu'on pouvait définir Dieu, le conceptualiser. Grégoire de Nice s'oppose à cette idée. Il dépasse nos concepts, il dépasse nos définitions. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que Dieu est une relation. Dieu est relation. Relation d'amour. Il est d'abord une relation en lui-même, entre un Père, un Fils et l'Esprit-Saint. Il établit une relation avec nous. Il nous fait entrer dans cette relation d'amour. Quand on dit que Dieu est Père, quand on dit que Dieu est Fils, quand on dit que Dieu est Esprit-Saint, et on l'a vu hein, largement dans nos rencontres précédentes, hein, on ne dit pas des définitions de ce qu'est Dieu, on dit l'action de Dieu, l'action amoureuse de Dieu à notre égard, la relation qu'il veut établir avec nous. De même, l'homme est un être fait pour la relation, créé à l'image de Dieu. Dans la mise en œuvre de sa liberté pour aimer. C'est ça l'homme, c'est la mise en œuvre d'une liberté pour aimer. Et ça, Grégoire de Nice, il va le puiser dans sa conception trinitaire de Dieu. Puisque Dieu est relation d'amour, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme est fait pour une relation d'amour libre. L'homme est fait pour faire de sa vie un mouvement vers le bien. Un mouvement vers le bien, qui l'emporte toujours plus vers le bien. Hein, contrairement à justement à toutes les définitions pessimistes de l'homme qui dirait que l'homme il est enfermé dans le mal et il ne pourra pas s'en sortir. Certains de mes amis collapsologues sont parfois dans ce type de définition de l'homme, hein, cette sorte de pessimisme de la nature humaine. La nature humaine serait violente par définition, mauvaise par définition, prédatrice de la nature par définition. Non, chez Grégoire de Nice, l'homme est fait pour le bien. Le mouvement vers le bien de l'homme, il est illimité, il est infini, puisque le bien parfait, c'est Dieu infini. Donc, le mouvement vers le bien est infini. Le mouvement vers le mal, il est limité. Parce que le mal est fini, alors que le bien est infini. Et donc, Grégoire de Nyssa va développer toute une doctrine du progrès spirituel, qui correspond à une transformation de l'homme. Et cette transformation, elle consiste en une participation de plus en plus intense à la vie divine. L'homme avance vers le bien quand il entre dans une relation toujours plus intense avec Dieu. Grégoire de Nyssa a écrit deux grandes œuvres. Il a écrit beaucoup de sermons, hein, comme tous les pères de l'Église, hein, des commentaires bibliques, dont le commentaire du Cantique des Cantiques notamment. Mais il a écrit deux grandes œuvres que nous avons traduites en français. La vie de Moïse, celle qui va nous intéresser maintenant, et La création de l'homme. Ces deux œuvres, vous les trouvez aux éditions Sources Chrétiennes.
Est-ce qu'on peut juste une toute petite question à ce stade, non ?
Oui, tout à fait, oui, pour ce Grégoire, oui.
Pardonnez-moi, c'est que ça va pas, mais moi.
Donc, oui, j'en prie.
C'est l'éternelle question entre le bien et le mal. Et quand vous dites que le mal est nécessairement limité, est-ce que vous pourriez approfondir ce nécessairement limité ?
Oui, c'est-à-dire qu'il il est limité par le fait qu'il conduit à la mort. Et la mort est une fin.
D'accord, ok.
Alors que le bien conduit à la vie, mais à la vie qui est une éternité.
D'accord.
Donc, c'est forcément, oui, c'est, le mal est mortifère, le bien est infini.
Merci.
Ah, je vous en prie. Alors, donc, Grégoire de Nyssa, il va essayer de penser un itinéraire spirituel, un itinéraire mystique. Mais on va voir comment il définit justement cet itinéraire mystique. Et là, ce que je vous propose, c'est un peu de le refaire avec lui, en lisant quelques extraits de Grégoire de Nyssa. Pourquoi ? Parce que ça nous plonge dans une littérature, et je trouve que c'est une littérature qui est très rafraîchissante d'un point de vue spirituel. Ça nous plonge dans une littérature et qui n'est pas si compliquée que ça. Hein, voilà. Et ça nous décrit très bien. Puisque c'est une des premières interprétations, finalement, de l'écriture et de la foi, ça nous décrit très bien la vie spirituelle. Alors, je vous propose ce petit itinéraire. Il faut que je change de diapo. Je change de diapo. Est-ce que vous avez vu mon changement ?
Oui.
Oui.
Parfait. Donc, ce que nous allons lire un peu comme itinéraire est donc dans cet ouvrage, La vie de Moïse. Pour l'anecdote, hein, La vie de Moïse, c'est fait partie d'une collection qu'on appelle les collections Sources Chrétiennes, qui est une collection de textes patristiques qui ont été traduits au cours du XXe siècle, et dont deux grands artisans de ces traductions sont le cardinal Jean Danielou et Henri de Lubac. Et le premier ouvrage que Jean Danielou et Henri de Lubac ont voulu traduire, c'est justement La vie de Moïse de Grégoire de Nyssa. Donc c'est la Source Chrétienne numéro 1. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à 420 et quelques, hein, je ne sais plus exactement, mais à 420 et quelques ouvrages traduits, hein, par la collection Source Chrétienne, dont le siège est à Lyon. Le premier, c'est celui-ci, Grégoire de Nyssa, La vie de Moïse, traduit en 1942. Pendant la guerre. Et je crois que ce n'est pas innocent que Jean Danielou et Henri de Lubac aient choisi cet ouvrage-là de Grégoire de Nyssa comme première traduction dans la collection Sources Chrétiennes. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? Eh bien, Grégoire de Nyssa essaye de décrire l'itinéraire spirituel de Moïse. Qui commence cet itinéraire par l'apparition de Dieu dans le buisson ardent. Et la manière de décrire cette apparition, c'est par la lumière, par la curiosité, désir d'aller voir, mais aussi que c'est tous les sens qui sont convoqués vers Dieu. Pas simplement la vision, mais aussi l'audition. Avec un style qui est très frappant chez Grégoire de Nyssa, hein, qui est le style oxymorique, hein, le style de l'oxymore. Ça, c'est très caractéristique de sa littérature. Hein. Je vous remets le terme oxymore. Voilà. Par exemple, la voix de la lumière, la voix VOX de la lumière. Voilà. C'est-à-dire d'associer deux réalités qui normalement ne sont pas compatibles, sont opposées, de les associer ensemble. Et Grégoire de Nyssa use et abuse des oxymores. Par exemple, on va en voir tout à l'heure, le cri silencieux, la ténèbre lumineuse. Et à travers ce langage oxymorique, Grégoire de Nyssa va vraiment nous faire entrer dans l'expérience spirituelle. Lisons le premier texte que nous avons sous l'image. Ayant passé un certain temps dans ce genre de vie, nous dit l'histoire, c'est la vie solitaire, hein, une fois qu'il s'est enfui d'Égypte après le meurtre de l'Égyptien, il eut une apparition de Dieu merveilleuse. En plein midi, une lumière plus brillante que celle du soleil resplendit à ses yeux. Étonné de cette étrange vision, il leva les yeux vers la montagne et vit un buisson, d'où la lumière jaillissait comme une flamme. Les branches du buisson restaient fraîches dans la flamme comme sous une rosée. Il se dit à lui-même, « Allons voir ce spectacle grandiose. » Mais à peine avait-il dit cela que le miracle du buisson n'affecta plus seulement ses yeux, mais ce qui est le plus étonnant, les rayons de la lumière se mirent à briller aussi à ses oreilles. En effet, la beauté de la lumière se distribuait à l'un et l'autre sens, illuminant les yeux par le miroitement des rayons et éclairant les oreilles par des enseignements incorruptibles. La voix de la lumière empêcha Moïse de s'approcher de la montagne, alourdi par des chaussures mortes. Mais quand il eut défait ses pieds des chaussures, il put toucher la terre qui était dans le champ de la lumière. Hein ? L'expérience mystique commence par quoi ? Et ça rejoint hein, tout à l'heure ce que l'on disait hein, sur le désir naturel de Dieu. Hein. Dieu attire comme une lumière attirante. Dieu veut faire entendre une voix. Il attire la curiosité de l'homme. Mais il peut y avoir aussi des éléments qui empêchent d'entrer dans ce faisceau de lumière, hein, c'est les chaussures mortes. Belle expression, là. Et on a l'impression que Grégoire de Nyssa rend vivantes les chaussures. Hein. C'est les chaussures sont mortes. C'est-à-dire la lourdeur. Et Grégoire de Nyssa, il pense à la lourdeur de tout ce qui fait obstacle à la vie vertueuse, à la vie selon le bien. Et ça empêche d'entrer dans la lumière. Il faut défaire ces chaussures de toutes ces lourdeurs du mal, du péché, pour entrer dans ce faisceau de lumière. L'origine de l'expérience mystique hein, de Moïse. Deuxième étape, eh bien, Dieu accompagne le peuple. Donc, ce n'est pas seul, et voilà, c'est là qu'on rejoint tout à l'heure la question. Hein. L'expérience mystique, c'est l'expérience d'une nuée qui conduit le peuple dans le désert. Et cette nuée dépasse l'entendement humain. Le peuple accepte de se laisser guider dans le désert par une nuée qui dépasse l'entendement humain. Voici comment Grégoire décrit cette nuée. Une nuée conduisait le peuple par l'effet de puissance divine. Ce n'était pas une nuée de nature ordinaire. En effet, elle n'était pas formée de vapeur ou d'exhalaison, résultant de l'épaississement de l'air par les vapeurs à cause de leur nature humide et de sa compression par le vent. Mais elle était quelque chose de plus grand et qui dépassait l'entendement humain. Cette nuée, l'écriture en rend témoignage, avait la propriété merveilleuse, quand l'éclat des rayons du soleil devenait brûlant, de constituer un écran pour le peuple, donnant de l'ombre à ceux qui étaient en dessous et humectant d'une légère rosée l'air embrasé, et pendant la nuit de devenir un feu conduisant les Israélites avec son propre éclat, comme avec une torche du soir au matin. Donc c'est plus que... on est encore une fois dans une littérature du IVe siècle. On dit c'est plus que qu'une force physique. Alors même si, une fois, c'était sur le mont Tabor, en Israël, il y avait ça, des vapeurs d'eau là, qui remontaient. Et on avait l'impression d'être dans la nuée. Là. C'était une expérience assez... Donc oui, bien sûr, il y a des éléments physiques, mais ce qui est important, c'est de noter que ça dépasse l'entendement humain. Et que on a bien le sentiment que c'est la présence de Dieu à la fois qui protège et qui guide. Présence de Dieu qui protège et qui guide. Et que le peuple, il avance dans le désert parce qu'il est conduit par cette puissance divine. Deuxième caractéristique de l'expérience mystique qui est de l'ordre d'un accompagnement protecteur et éclairant de la puissance divine. Troisième étape de cet itinéraire, eh bien, ça va être l'étape d'une initiation, une initiation qui est qualifiée comme mystérieuse. Et Grégoire de Nyssa utilise un terme qu'on a beaucoup repris ces dernières années pour parler de la transmission de la foi comme une mystagogie. On a redécouvert, notamment dans les textes des évêques de France sur la catéchèse, la valeur des catéchèses mystagogiques, c'est-à-dire l'explication des mystères, une initiation au mystère, plus que l'apprentissage d'énoncé sur la foi, plus que... c'est ce qu'on avait vu, le catéchisme de 1947 qui est l'ordre de la question-réponse. Là, c'est l'entrée dans le mystère. Alors, une rentrée qui se fait aujourd'hui dans l'Église, qui se fait à travers l'expérience même, l'expérience des sacrements, l'expérience de la vie de prière, l'expérience de la rencontre de la parole. C'est à l'intérieur même de l'expérience que nous sommes introduits au mystère de Dieu. Voilà comment Grégoire parle de cette initiation mystérieuse. C'est à ce moment que Moïse fut pour eux le guide d'une initiation plus mystérieuse. La puissance divine elle-même, par des merveilles qui dépassent le discours, initiant à la fois le peuple et son guide. Cette mystagogie s'accomplit de cette manière. Le peuple fut d'abord averti de se garder de toute souillure, tant du corps que de l'âme, et de se purifier par des ablutions. Plus particulièrement, il devait s'abstenir du mariage un nombre donné de jours. Ainsi, purifié de toute disposition sensible et corporelle, il aborderait, libre de passion, la montagne pour y être initié. Le nom de cette montagne était le Sinaï. Elle n'ouvrait son accès en cette circonstance qu'aux seuls êtres doués de raison, et parmi eux seulement aux hommes, et parmi ceux-ci à nouveau à ceux qui étaient purifiés de tout miasme. Grande vigilance était prise pour qu'aucun être sans raison ne montât sur la montagne. Et si la chose arrivait, le peuple lapidait tout être de nature irrationnelle qui se montrait près la montagne. Là encore, on est dans un texte du IVe siècle, marqué par un certain nombre de courants philosophiques, dont le plotinisme, Grégoire de Nyssa a été marqué par l'influence du philosophe Plotin, et notamment dans cette idée du fait que la souillure du corps empêche finalement l'âme d'atteindre à une vie spirituelle. Donc ça, c'est marqué de l'influence de Plotin. Ce qui est important dans ce peuple, c'est que Moïse... est comme le relais de l'initiation que Dieu opère parmi le peuple. Il n'est qu'un relais. Ce n'est pas lui qui apprend les bonnes leçons finalement au peuple de Dieu. C'est Dieu lui-même qui initie. Hein, initiant à la fois le peuple et son guide. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de monter sur la montagne. Alors, chez Grégoire, il y a l'idée que pour monter sur la montagne, il faut être déjà dans une vie vertueuse, être déjà sur un chemin de vertu. Et que pour monter sur la montagne, il ne faut pas être dans des comportements irrationnels. Quand il dit irrationnel, ce n'est pas simplement avoir la bonne intelligence de la connaissance de Dieu, c'est d'avoir quitté des comportements irrationnels, qui pour lui est de l'ordre du vice. Donc d'être déjà dans un chemin vertueux, propice à la rencontre, une sorte de préparation à la rencontre. Nous continuons l'itinéraire. L'itinéraire va passer par, et ça c'est un point important de l'expérience mystique, par une expérience des ténèbres. Tout ne s'éclaire pas d'un coup. Il faut passer par l'obscurité. Voilà comment ça se passe. Voilà comment Grégoire de Nice le décrit. Après cela, la pure transparence de l'atmosphère, jusque-là lumineuse, s'obscurcit et devint ténébreuse. Si bien que la montagne était invisible, environnée par une nuée tout autour. Une fournaise apparaissait dans la nuée et rendait le spectacle terrifiant. Elle s'étendait sur toute la surface de la montagne, en sorte que tout ce qui se trouvait pris dans ce cercle mouvant de feu était rempli de fumée. Moïse guidait le peuple dans l'ascension. Lui-même n'était pas sans crainte devant le spectacle. Son âme était saisie de terreur et son corps tremblait d'effroi. L'émotion de son âme n'échappait pas aux Israélites et lui-même reconnaissait qu'il était effrayé de ce qui se voyait et que son corps n'était pas sans trembler. Ça, c'est, à mon sens, un point très important de l'expérience mystique chez Grégoire de Nice. Et il me semble de sa pertinence pour aujourd'hui. Je m'explique. La foi est, il me semble, trop souvent perçue par nos contemporains comme une évidence dénuée de doute. Trop souvent, l'idée de foi est associée à une évidence dénuée de doute. À toi, tu as de la chance de croire, c'est une évidence pour toi. Tu n'as pas de doute. Mais moi, je n'y arrive pas. Eh bien là, Grégoire de Nice, il décrit une expérience de foi qui doit passer par l'obscurité. Si on veut que la lumière de Dieu puisse briller, il faut passer par une obscurité. Et on va le voir, cette obscurité va jusqu'à se dessaisir de toutes nos certitudes. Peut-être même, là, dans ce que la suite de la tradition mystique a appelé, de passer par la nuit obscure. Ah, c'est la nuit obscure de Saint Jean de la Croix, ou la nuit d'essence de Sainte Thérèse. Je ne ressens plus rien, je ne vois plus rien. Je ne perçois plus la présence de Dieu dans ma vie. J'ai l'impression d'une totale absence. Je ne vois plus clair, je ne sais plus où je vais. Eh bien, l'expérience de la foi comprend cette étape-là comme une étape décisive. Alors, on me dirait, mais peut-être que tout le monde ne va pas vivre cette expérience-là, certainement, et je le souhaite pour certains, mais n'est-ce pas une expérience décisive à l'intérieur de la foi? Alors, on continue. Cette expérience de ne plus voir est associée à une expérience de ne plus entendre. Le spectacle ne jetait pas seulement l'âme dans l'effroi en pénétrant par les yeux, mais il répandait aussi la crainte par les oreilles. Le fracas d'une voix venue d'en haut se répandait en effet de façon terrible sur toute la région. Sa première atteinte était déjà pénible et intolérable à toute oreille. Sa sonorité ressemblait à celle des trompes, mais elle surpassait par sa terrible intensité tout ce qui existe en ce genre. En s'approchant, elle devenait plus terrifiante encore, augmentant d'intensité de façon de plus en plus effrayante. Cette voix était articulée, l'air par la puissance de Dieu, articulant la parole sans organe phonétique. Et cette parole n'était pas prononcée vainement, mais elle promulguait les ordonnances divines. La voix, en progressant, augmentait d'intensité, et la trompe se dépassait elle-même, les sons antérieurs étant toujours surpassés par ceux qui leur succédaient. Il y a une sorte de confusion, de chaos, hein, de la voix, des sons, hein, qui est vécu dans cette expérience jusqu'à ce que puisse être entendue la voix de Dieu, les ordonnances divines. Ça passe par de l'intolérable à l'oreille. Et là aussi, je crois que c'est très pertinent aussi pour aujourd'hui. Parce que est-ce que nos énoncés de foi ne sont pas vus comme trop évidents, d'une certaine manière, trop évidents? Est-ce que nous acceptons de ne plus pouvoir les entendre?
Excusez-moi, mon père. On ressent quand même une grande souffrance chez les mystiques, là.
Ah oui.
Une souffrance que même nous qui écoutons la lecture, on est un peu perturbés par ce qu'eux, ils ont pu vivre, traverser.
Oui. Et c'est là justement que l'expérience mystique est une expérience de salut. Elle passe par cette expérience de ne plus voir, de ne plus entendre, d'être comme angoissés, effrayés par ce qu'ils entendent même. Et ça passe par là. Et peut-être que, en effet, ça nous invite à ne pas trop vite, hein, entrer dans une évidence de la foi qui ne ferait pas l'épreuve de cette difficulté à entendre et à voir. C'est ce que vivent les mystiques.
Merci.
Qui est au cœur de l'expérience mystique. Mais on continue, parce qu'on va voir que ça ne s'arrête pas là. Hein, ça ne s'arrête pas. Ça passe par là, mais ça franchit ce passage. Il pénétra ensuite dans les réalités invisibles. Le peuple était tout entier incapable de supporter ce qui se voyait et s'entendait. Ce n'est pas simplement Moïse qui fait cette expérience, hein, le peuple tout entier. C'est pourquoi ils adressèrent en commun la demande à Moïse de se faire le médiateur de la loi, affirmant qu'ils ne mettraient pas en doute que tout ce qu'il ordonnerait selon l'enseignement reçu d'en haut serait ordonnance de Dieu. Tous donc étant redescendus au pied de la montagne, Moïse resta seul, montrant en lui le contraire de ce qu'on aurait attendu. En effet, alors qu'en général les autres affrontent mieux le danger s'ils le partagent avec quelqu'un, lui prit plus d'assurance une fois isolé de ceux qui l'accompagnaient, manifestant par là qu'il n'avait pas éprouvé pour lui-même la crainte dont il avait été saisi au début, mais qu'il n'avait senti cela que par compassion pour ceux qui en étaient frappés. Aussi, une fois réduit à lui-même et débarrassé comme d'un poids de la timidité de la foule, il affronta la nuée elle-même et pénétra dans les réalités invisibles, lui-même se dérobant à la vue. Ayant pénétré en effet dans le sanctuaire de la divine mystagogie, il y entra en contact avec l'invisible, disparaissant à la vue, enseignant, je pense par là, que celui qui veut s'approcher de Dieu doit quitter tout le visible et ayant élevé son esprit vers l'invisible et l'incompréhensible, comme sur le sommet d'une montagne, croire que le divin demeure là où il n'atteint plus la saisie de l'intelligence. On le voit, hein, il y a à la fois une expérience de tout un peuple, hein, de tout un peuple qui accepte d'être déstabilisé dans son propre itinéraire. Et puis il y en a un qui va aller encore plus intensément comme médiateur, hein, dans cette expérience de rencontre, Et je crois que ça rejoint l'expérience des saints dans l'Église. Heureusement que nous avons autour de nous, j'oserais dire hier, aujourd'hui et demain, hein, des témoins qui vont plus en avant, on va dire, dans cette expérience à la fois très forte et redoutable, d'une certaine manière, de la rencontre de l'invisible. Hein, les saints sont comme les envoyés dans cette expérience et qui vont ensuite nous conforter, dans la foi. Moïse fait cette expérience. Qui nous dit la fin du texte est au-delà de la saisie de l'intelligence. Continuons. Au-delà du connaissable même. Parvenu là, il reçoit les ordonnances divines. Elles consistaient en un enseignement relatif à la vertu, dont le premier était la vénération et la vraie façon de penser relativement à la divine nature, à savoir qu'elle transcende toute notion cognoscitive et toute représentation, étant différente de tout ce qui est connaissable. Il reçoit en effet l'ordre de ne considérer aucune des choses saisies par l'esprit dans ses pensées sur Dieu, et de n'assimiler à rien de ce qui est connu par concept la nature qui transcende l'univers, mais de croire à son existence, laissant sans le rechercher comme inaccessible tout ce qui concerne la qualité, la quantité, le mode et l'origine. Ici, il y a une forme de dépossession que vit le mystique. Il accepte que tout ne soit pas saisi par son intelligence. Alors là, voilà, c'est le théologien qui parle. C'est-à-dire que tout ce que nous recherchons sur Dieu, tout le parcours que nous avons fait ensemble, nous laisse devant quelque chose que nous ne pouvons pas saisir totalement. Parce qu'il est plus grand que nous, au-delà de nous. Et que, d'ailleurs, l'expérience mystique est première dans l'intelligence. Hein, vous savez qu'un grand théologien médiéval, s'appelle Saint Anselme, à la suite de Saint Augustin, dira « C'est la foi qui recherche l'intelligence et non pas l'intelligence qui recherche la foi. » C'est parce que nous sommes déjà rentrés dans une union à Dieu que nous essayons de mieux comprendre qui il est, mais que nous ne pourrons pas dire qui il est. Et ce n'est pas le contraire, ce n'est pas parce que nous avons une intelligence que nous pourrions accéder à la connaissance de Dieu. C'est d'abord ce que nous avons accepté, ce parcours-là d'union à lui-même. La foi recherche l'intelligence, et non l'intelligence recherche la foi. Alors, une fois que Moïse a fait cette expérience, eh bien, il va falloir aller transmettre ce qu'il a vécu. Après qu'environné de la nuée invisible, Moïse eût été instruit de ces choses et d'autres semblables par l'enseignement ineffable de Dieu, étant devenu plus grand que lui-même par l'acquisition des doctrines secrètes, alors à nouveau émergeant de la nuée, il descendit vers son peuple pour lui faire part des merveilles qui lui avaient été montrées dans la théophanie, lui remettre les lois et établir pour lui le temple et le sacerdoce selon le modèle à lui montrer sur la montagne. Il tenait aussi dans ses mains les tables saintes, qui étaient une invention et un don divin, et n'avaient demandé aucune coopération humaine pour être faites. Mais aussi bien la matière que les caractères inscrits sur elles étaient également, l'un et l'autre, œuvre de Dieu. Moïse ne fait que transmettre l'expérience d'un don gratuit de Dieu. D'un don gratuit de Dieu à transmettre au peuple et de ses conséquences. C'est-à-dire que ce don gratuit, cette expérience, on va dire, de l'invisible, elle va se traduire dans des choses très concrètes, c'est-à-dire une manière de vivre le culte, hein, le temple, le sacerdoce, une manière de mettre en œuvre la loi, hein, les 10 commandements et toute la vie éthique qui lui est liée. Mais tout ça, ça vient de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. C'est parce que ça a été transmis dans cette rencontre de l'invisible. Le problème, c'est que vous le savez, bien sûr, en descendant de la montagne, eh bien, Moïse trouve un obstacle. Le peuple fit obstacle à la grâce. Le peuple fit obstacle à la grâce, s'étant détourné vers l'idolâtrie avant d'entendre le législateur. Le problème de toute vie mystique, le problème de notre progression dans la foi ou dans notre croissance spirituelle, c'est l'obstacle que nous pouvons poser au don gratuit de Dieu. De toutes nos idolâtries. De tout ce qui est finalement de l'ordre de nos constructions humaines. Parce que nous avons du mal à accueillir l'invisible. À faire cette expérience que Moïse a dû faire sur la montagne. Alors Grégoire de Nice, et là c'est un peu le résumé hein, de cette expérience, Grégoire de Nice résume si bien finalement, dans une première partie de la vie de Moïse, il fait comme une description du récit hein, de l'Exode. Hein. Et puis dans une deuxième partie de la vie de Moïse, il va essayer d'en fournir une interprétation. Et il va résumer finalement cette expérience de Moïse par une expression, une belle expression, oxymorique, hein, toujours, une ténèbre lumineuse. Mais que signifie l'entrée de Moïse dans la ténèbre et la vision que dans celle-ci il eut de Dieu ? Le récit présent semble en effet quelque peu en contradiction avec la théophanie du début, donc buisson ardent. Hein. Alors c'était dans la lumière, maintenant c'est dans la ténèbre que Dieu apparaît. Ne pensons pas cependant que ceci soit en désaccord avec la suite normale des réalités spirituelles que nous considérons. Le texte nous enseigne par là que la connaissance religieuse est d'abord lumière quand elle commence à apparaître. En effet, elle s'oppose à l'impiété qui est ténèbre, et les ténèbres se dissipent par la jouissance de la lumière. Mais plus l'esprit, dans sa marche en avant, parvient par une application toujours plus grande et plus parfaite, à comprendre ce qu'est la connaissance des réalités et s'approche davantage de la contemplation, plus il voit que la nature divine est invisible. Ayant laissé toutes les apparences, non seulement ce que perçoivent les sens, mais ce que l'intelligence croit voir, il va toujours plus à l'intérieur jusqu'à ce qu'il pénètre par l'effort de l'esprit jusqu'à l'invisible et à l'inconnaissable. Et que là, il voit Dieu. La vraie connaissance de celui qu'il cherche, en effet, et sa vraie vision, consiste à voir qu'il est invisible, parce que celui qu'il cherche transcende toute connaissance, séparé de toutes parts par son incompréhensibilité comme par une ténèbre. C'est pourquoi Jean le Mystique, qui a pénétré dans cette ténèbre lumineuse, dit que personne n'a jamais vu Dieu. Définissant par cette négation que la connaissance de l'essence divine est inaccessible non seulement aux hommes, mais à toute nature intellectuelle. Donc, lorsque Moïse a progressé dans la gnose, il déclare qu'il voit Dieu dans la ténèbre, c'est-à-dire qu'il connaît que la divinité est essentiellement ce qui transcende toute gnose et qui échappe aux prises de l'esprit. Moïse entre dans la ténèbre où Dieu se trouvait, dit l'histoire. Quel Dieu ? Celui qui a fait de l'obscurité sa retraite, comme dit David, lui aussi initié dans ce même sanctuaire secret au mystère caché. Un Grégoire de Nice résume l'expérience de Moïse comme l'acceptation d'entrer dans une ténèbre lumineuse. Parce que même si au départ il fait une expérience assez forte de Dieu au buisson ardent et qu'il y a une lumière qui s'impose à lui, qu'il y a une voix qui dit « je suis celui qui suis », eh bien il va falloir ensuite qu'il fasse un itinéraire où il va passer par cette obscurité des sens, obscurité de l'intelligence à comprendre pour rencontrer l'invisible et l'inconnaissable. Et je crois, et c'est là, il me semble, toute la pertinence de la pensée de Grégoire de Nice, hein, la foi, si elle est de l'ordre d'une évidence de se savoir aimer, hein, d'un amour absolu par Dieu, eh bien, passe par cette forme d'obscurité pour que jaillisse vraiment la lumière. Et je pense que ça a une pertinence pour aujourd'hui, où beaucoup ne voient plus forcément la foi comme comportant finalement cette obscurité-là, pour laisser jaillir la lumière. Et je reprends mon dialogue avec mes collapseurs, c'est-à-dire que est-ce que dans ce constat réaliste d'un possible effondrement de la civilisation thermo-industrielle, comme il l'appelle, est-ce qu'on laisse encore jaillir une lumière qui ne nous appartient pas et qui vient certainement éclairer nos changements de rapport à la Terre, de rapport à l'autre, de rapport à la vie en société. Comment est-ce qu'on laisse jaillir la lumière divine dans nos obscurités, dans ce que nous avons du mal à percevoir, l'acceptation de ne plus tout saisir par les sens ou par l'intelligence. Et là, c'est l'expérience mystique de Moïse. Alors, je vais revenir sur l'autre. Voilà. Le partage d'écran s'est arrêté. Voilà, on a fait tout cet itinéraire avec Moïse hein, pour voir c'est quoi l'expérience mystique fondamentalement. Voilà. S'il y a quelques réactions ou questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, nous passons à la dernière partie. Alors, je vais sur le fil de conversation parce qu'il n'y en a pas écrit. Voilà. Un témoignage. J'ai questionné ma mère à la fin de sa vie sur des éclaircissements qu'elle avait. Ah, pardon, c'était une question privée. Je la résicardais privée. Merci de cela.
Non, elle n'est pas forcément privée. Hein. Elle est...
D'accord. Bon.
Elle est personnelle, mais elle n'est pas privée. Oui,
d'accord. Donc, sur les éclaircissements qu'avait apporté sa maîtrise de théologie, sa pratique sacramentelle, sa longue expérience de vie à la perception et l'accessibilité du divin, réponse, non, en progressant, le mystère s'épaissit. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est ça l'expérience mystique, à la fois le mystère s'épaissit, et du coup, je pense que ça nous invite à une forme de dépossession de plus en plus grande pour laisser la lumière jaillir d'un autre. Et je crois que c'est là l'expérience de foi. Plus vous aurez avancé dans la connaissance de la foi, dans l'expérience sacramentelle, dans la vie chrétienne plus généralement, plus finalement, elle nous invite à une sorte de dépossession pour laisser la lumière d'un autre nous visiter. C'est l'expérience du vieillard Siméon, finalement, qui attendait lumière qui vient éclairer les nations païennes. Merci beaucoup, Béatrice, de ce témoignage qui me semble, en effet, au cœur de toute progression spirituelle. À la fois, c'est la progression de la vie de Moïse. Combien de croyants chrétiens peuvent dire, mais je sais que je ne sais pas, mais je sais que ma vie est redevable d'un autre et que cet autre est amour. Et je crois que ça pourrait être le dernier mot de notre vie, ce serait formidable. Enfin, Est-ce qu'il y a des remarques sur cet itinéraire? Peut-être que c'est, voilà, il y a un langage aussi hein, du IVe siècle, une manière de s'exprimer, mais j'espère que ça vous donne le goût de lire les Pères de l'Église qui sont de magnifiques textes.
Moi, j'ai une question toute bête, mon père. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends bien.
Oui. Mais être mystique, c'est le choix du mystique ou c'est le choix de Dieu? Ou c'est une entente tacite des deux?
On a, vous savez, en préalable à la réponse à cette question, on s'est demandé si l'expérience mystique des modernes, quand je dis les modernes, c'est Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, jusqu'à Sainte Thérèse de Lisieux, on s'est demandé si Saint Ignace de Loyola, bien sûr, si l'expérience mystique des modernes était la même que celle que décrit Grégoire de Nice, de celle de Moïse décrite par Grégoire de Nice, qui était peut-être d'ailleurs une expérience plus subjective. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la dimension collective. Hein. L'expérience, alors, même si c'est Thérèse, l'Église est très importante, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui fait l'expérience mystique? C'est, je crois que c'est d'aller le plus loin possible dans la mise en œuvre de notre désir de Dieu. Mais quand je dis le plus loin possible, ça ne veut pas dire déraciner de notre enracinement terrestre. Là, on va pas. Il y a une fausse mystique, il me semble, qui serait une sorte de mystique hors sol, d'une mystique qui ne serait pas bien ancrée, les pieds sur terre. C'est cette belle réponse qu'on a attribuée à Christian de Chergé qui décrit à un de ses frères moines cet arbre-là qui est planté dans la terre et qui dit, voilà, notre vie de foi, c'est ça, c'est ses racines dans la terre et la cime de l'arbre vers le ciel. La vie mystique, c'est la mise en œuvre de notre désir de Dieu à l'intérieur de notre histoire, à l'intérieur de notre réalité historique et concrète. Et c'est d'essayer d'aller jusqu'au bout de cette mise en œuvre, et y compris passant par des obscurités, des incompréhensions,
Voilà. Et là, vous parlez de mystiques un peu anciens, mais des mystiques plus modernes, comme le Padre Pio, c'est il y a encore moins longtemps, disons.
Bien sûr. La tradition mystique, hein, là Je remontais à Grégoire de Nice, bon, parce que je voulais vous faire connaître aussi, enfin, vous faire connaître un peu des textes de ces pères qui sont, il me semble, magnifiques. Mais c'est vrai, il y a des mystiques plus récentes. Et puis encore dernièrement, Mère Teresa et d'autres hein, au 20e siècle. Donc, l'expérience, et ce que je suis en train de vous dire, finalement, à travers ça, en prenant un texte du IVe siècle, c'est de vous dire que je crois que l'expérience mystique est ce qui, finalement, sauve la foi des risques de ce qui n'est pas vraiment la foi. Quoi. Le risque serait d'oublier que finalement l'expérience mystique, c'est le cœur de la foi. C'est ce que nous avons vraiment à vivre. Passant l'institution, passant la vie sacramentelle, etc. Mais la vie sacramentelle n'est là que pour servir cette vie mystique. On finit, parce que sinon on n'aura pas le temps. Je voudrais finir par justement hein, faire l'expérience de Dieu. Finalement, si Dieu se révèle à nous, c'est pourquoi ? Bien, c'est pour faire l'expérience de la rencontre de Dieu. Et j'aimerais finir ce cours par cela, c'est-à-dire est-ce que nous sommes invités à faire l'expérience de Dieu ? On n'a pas fait un cours théorique pour se dire qui est Dieu. On a fait un parcours qui nous invite à rentrer dans une expérience. Alors, je voudrais distinguer d'abord deux choses qu'on a tendance à confondre parfois, l'expérience et l'émotion. La postmodernité, à notre époque la plus récente, hein, a tendance à favoriser l'expérience sur la raison. On donne plus de crédit aujourd'hui, contrairement à l'époque moderne, à ce dont on fait l'expérience, plutôt qu'à ce que l'on peut saisir par l'intelligence. Alors, vous me direz, je ne vois pas ça forcément comme purement négatif, hein, mais parfois, d'ailleurs, on oppose les deux. Une expérience qui est souvent vue comme le primat de l'émotion sur la raison universelle. Il faut que je vive quelque chose. Mais alors, en plus, avec l'idée que ce qui est très exalté, ce qui est très mis en avant aujourd'hui, c'est l'expérience subjective, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire moi comme expérience. C'est le vécu. L'expérience, c'est ce que le sujet peut éprouver lui-même intérieurement, ce qu'il vit. Le problème de l'émotion, c'est que souvent
c'est tout mon clavier, c'est je peux plus. Ah,
attendez, là on a des interférences. Je vais remettre en muet. Le problème de l'émotion, c'est que ça peut être un feu de paille. Hein, ça laisse pas de traces, quoi. Finalement, c'est un moment vécu ou un moment fort. On a eu l'impression de vivre un moment fort. Et qu'on a du mal à faire la différence entre ce qui relève de notre subjectivité et ce qui serait une visitation de Dieu. Est-ce que j'ai vraiment fait l'expérience de Dieu ou est-ce que j'ai l'impression moi-même d'avoir fait l'expérience de Dieu? Comment finalement distinguer une expérience religieuse centrée sur Dieu d'une expérience intense, intérieure, mais centrée sur soi? Et notre époque, elle a tendance à beaucoup recentrer les individus sur eux-mêmes et peu sur l'autre, encore moins sur Dieu. Or, l'expérience de Dieu en régime chrétien, c'est mon petit B là, c'est l'expérience d'une altérité. On peut définir l'expérience religieuse comme une expérience transformante de soi au contact de l'autre. Sans altérité, sans expérience de l'altérité, le désir obéit au seul principe de plaisir. Le but, c'est que j'éprouve un plaisir. Or, dans l'expérience chrétienne, le désir, il est soumis au principe de cette réalité d'un Dieu, non pas que je me donne, mais que je dois recevoir. Et tout le parcours qu'on a fait, hein, et en particulier quand on a fait tout ce parcours du Yahvé d'Israël au Dieu unique, hein, il a fallu que le peuple passe par cette expérience de décentrement. Est-ce que le Dieu, c'est celui que je me construis à mon image, ou est-ce que c'est celui que je reçois tel qu'il est, dans son altérité? C'est l'expérience que vit Saint Paul, dans sa conversion. Relisons rapidement cette conversion de Saint Paul. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres, le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres ?» Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Quelle expérience fait Saint Paul? Eh bien, l'expérience d'une démaîtrise. Hein, c'est d'abord l'expérience de tomber. D'être précipité à terre. On peut désigner par expérience religieuse, hein, quand on écoute ce récit, une sorte de circularité entre ce qu'éprouve une personne humaine, en l'occurrence ici Paul, et l'altérité divine qui s'impose à elle, empêchant l'individu de s'enfermer en lui-même, d'être victime de ses illusions, ses désirs de violence, de son désir peut-être de pouvoir, ou de s'enfermer dans un automatisme de sa vie religieuse. Il se laisse instruire par un autre. Il se laisse questionner par un autre. Et quelqu'un qui lui dit des choses qu'il ne voudrait peut-être pas entendre. « Je suis celui que tu persécutes. » Et qui se laisse ensuite guider par un autre. Qui se laisse transformer par un autre jusqu'à recevoir le baptême. Hein, l'expérience religieuse est une expérience de transformation de soi au contact de l'autre. Dont la rencontre présente toujours un risque et peut passer par une période d'obscurité. Hein, là, comme dans l'itinéraire de la vie de Moïse, on a une période d'aveuglement. On a une période où on ne saisit plus par les sens et peut-être même par l'intelligence. Une désappropriation de soi-même pour accueillir ce que l'autre veut faire en moi, accueillir la transformation qu'il veut opérer en moi. Donc, l'expérience chrétienne, elle est inaugurée non pas à partir du pôle subjectif de l'humain, mais à partir du pôle objectif de Dieu lui-même. Et puis, là, ça rejoint une remarque que tout à l'heure on avait, hein, l'expérience de Paul n'est pas une expérience purement privée, mais une expérience inscrite dans l'histoire d'un peuple de croyants qui en témoigne par la voix d'Anani. faire l'expérience de Dieu aujourd'hui. Faire l'expérience de Dieu aujourd'hui. C'est découvrir et repartir de cet événement fondateur de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ comme une vérité toujours authentique, toujours transformatrice. L'événement fondateur est porteur d'une signification qu'il est possible de vérifier encore aujourd'hui. Mais ça suppose quoi ? D'entrer dans la logique de cet événement. Qui est plus qu'une participation culturelle, qu'une inscription, y compris dans une constitution, des références chrétiennes ? Qui est de l'ordre d'une expérience de transformation. Et tout à l'heure, on l'a dit, qui va m'inviter moi-même, autour de moi, à un regard sur le plus faible, sur le plus vulnérable, à me laisser aussi interpeller par l'altérité, la rencontre de l'altérité.
Juste une question.
Oui.
Ouais, très, très intéressant. Merci beaucoup cette description de la transformation de Paul, de Saul. Et justement, quand vous dites la transformation de soi au contact de l'autre, mais c'est quoi ? C'est l'amour. C'est l'amour. On voit bien dans un couple. Donc, et alors, la différence entre. Alors, vous allez plus loin en disant que cette expérience de Paul n'est pas purement privée. C'est là où c'est la différence entre l'amour dans un couple et l'amour avec Dieu qui est mystique.
Oui, cette expérience, même si peut-être que dans un couple aussi, elle peut être aussi liée aux interactions du couple aussi avec l'extérieur, mais de ce qui se vit dans le couple. Mais chez Paul, en tout cas, l'expérience de transformation. Elle est à la fois dans cette rencontre mystique avec Dieu, mais elle a besoin d'un accompagnement humain. Et c'est le rôle d'Anani qui vient finalement l'aider à prendre conscience de ce qui s'opère en lui et à nommer. C'est qui ce Dieu qui m'a mis par terre, quoi. C'est qui cet amour-là ? C'est qui cet amour qui veut, pour moi, plus que ce que je croyais être le sens de ma vie jusqu'à présent ? De ma vie de bon juif qui est zélé et qui, au nom de ce zèle, persécute ceux qui vont vers une voie autre et qui se nomme chrétien. C'est qui celui-ci ? Eh bien, il faut qu'il y en ait un qui me dise « Ah, c'est Jésus. C'est Jésus. Hein, »
C'est quand même troublant que ces grands saints comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Mère Thérésa aient été conduits à cette obscurité qu'on appelle la nuit de la foi. Ça veut dire que nous, il faudrait qu'on progresse encore pour arriver à ça, mais on n'y arrivera jamais.
C'était ma question, merci.
Vous avez vu que dans la description que Grégoire de Nice faisait, en effet, il disait ce que Moïse vit, alors le peuple le vit d'une autre manière, d'une certaine manière. Moïse le vit parce qu'il y a une sorte d'entraînement dans la vie mystique, peut-être, hein, qui peut-être que Sainte Thérèse de Lisieux, même si c'est une femme ordinaire, à quelque chose d'un peu extraordinaire hein, dans cette vie mystique hein, qui n'est pas du commun de tous les mortels. En tout cas, il y a quelque chose de cette obscurité, je crois, que nous vivons et que nous pourrions vivre un jour. C'est-à-dire de ne plus vous êtes saisi simplement par une évidence, mais de devoir faire un passage de, par une sorte de désappropriation de ce qu'on croyait évident. Mais ça ne se vit pas de manière aussi radicale pour tous comme Sainte Thérèse de Lisieux ou Mère Teresa. Nous vivons peut-être la plupart d'entre nous de manière plus humble. De manière plus humble, mais non moins décisive, parce que nous avons à rechoisir la rencontre avec ce Dieu-là. Nous avons à redire oui, à dire oui à une lumière qui, en laquelle nous avions du mal encore à croire.
Est-ce que nous n'avons pas à être témoins, à être, comme je dirais, une espèce de miroir de la lumière, c'est-à-dire qu'on transmette cette lumière, on réfléchisse plutôt cette lumière, pardon.
Oui, je dirais oui, mais avec aussi notre expérience de nos fragilités. Vous savez que tout à l'heure dans Grégoire de Nice, on a lu que Moïse n'avait pas peur aussi de dire qu'il avait fait l'expérience de cette obscurité. On est témoin à la fois de la lumière, mais on peut être témoin aussi de nos questionnements. On est témoin d'une lumière qui n'est pas toujours évidente. Et c'est ça être témoin de la foi. Et je crois que c'est aussi ce qu'attend le monde de nous, c'est-à-dire de dire oui, je crois, mais le doute, mes questions font partie de ma foi, sont intégrées à ma vie de foi et n'empêchent pas le fait que je continue l'itinéraire. Ça en fait partie. Donc on est témoin aussi de cela. N'ayons pas peur de montrer aussi nos vulnérabilités.
Oui, oui, je comprends. Je pense particulièrement à nos enfants.
Ouais.
On est témoin pour eux, et on est témoin de ce à quoi on croit et des vulnérabilités qu'on leur montre, puisqu'ils vivent avec nous.
Ouais. Bah, tout à l'heure, l'une d'entre nous a témoigné de la foi de sa maman jusque dans son questionnement. Et j'ose espérer, je pense que ce fut un témoignage important et décisif pour elle. Alors, il faut conclure. Il faut conclure ce parcours qu'on a fait ensemble. Juste par quelques mots, rapidement, que vous le verrez, sont marqués, encore une fois, de mon contexte qui est celui de la rencontre des collapsologues, mais entrer dans l'espérance à l'heure de l'effondrement, c'est ma conclusion. Le christianisme nous apprend à penser et à agir à partir de la fin. À partir de la fin. Souvent, notre monde, il voudrait retrouver une sorte de début harmonieux, de principe harmonieux. Mais nous sommes tendus vers une fin. C'est ça le propre de la vie chrétienne, c'est d'être tendu vers une fin et une fin qui est déjà là. Le Christ a vaincu les puissances et dominations. La victoire du ressuscité a ouvert les temps de la fin. Nous sommes tendus vers cette fin. Le problème, et le problème que ce qu'on pourrait nous reprocher, c'est quand la fin elle est ramenée à un avenir hypothétique. Quand cette fin, elle paraît si lointaine. Or, la foi chrétienne vit de la résurrection du Christ crucifié et tend vers les promesses de son avenir universel, mais dès maintenant. Qui espère en Jésus-Christ doit vivre de cette transformation opérée par le Christ dès maintenant. La communauté chrétienne est appelée à porter la responsabilité de l'espérance qui est en elle. Et dans ce sens, seule l'espérance peut être dite réaliste. Elle s'inscrit dans la réalité telle qu'elle est. Elle ne cherche pas à fuir la réalité. Elle s'inscrit dans la réalité. mais prenant les choses telles qu'elles sont et vont en mouvement, transformables selon leurs possibilités. Hein, c'est un petit peu ma conclusion parce que j'ai souvent affaire à de grands pessimistes qui disent que, voilà, c'est que l'effondrement est inéluctable et que l'avenir ne serait qu'un avenir destructeur. Ça, c'est manquer d'espérance. C'est manquer d'espérance que celui qui a tout créé est aussi celui qui fait toute chose nouvelle, qui est une des dernières paroles de la Bible. Toi, le Seigneur, tu fais toute chose nouvelle. Lecture du livre de l'Apocalypse. Eh bien, cette tension de l'homme croyant vers ce renouvellement de toute chose ne peut être qu'être portée par l'amour. L'amour seul est digne de foi, disait le théologien Hans-Urs von Balthasar. L'amour seul croit que l'avenir, c'est la vie. La vie éternelle qui est déjà commencée. Celui qui vit dans l'amour, celui qui vit par amour, celui qui vit pour l'amour, est déjà dans ce temps de la fin, est déjà entré, d'une certaine manière, dans l'éternité, dans un avenir nouveau et bon. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite, de vivre de cette espérance dans les temps qui sont les nôtres et d'en témoigner autour de nous. En tout cas, c'est ce que ce cours cherchait à réveiller peut-être ou à susciter en nous, voilà, croyant que l'espérance ne déçoit pas, comme disait Jean-Paul II. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera de visu un jour.
Voilà. En votre conférence, c'est quand déjà?
Le 2 février. Ouh. Alors, c'est toujours l'incertitude sur le fait qu'elle soit en présentiel ou en distanciel. Mais de toute manière, elle sera publique. Donc, c'est les mardis d'éthique publique du Centre Sèvres.
C'est vers quelle heure? C'est l'après-midi?
Non, c'est soir. C'est en soirée. Donc, ça doit être vers 19h,
19h30. 19h en général.
Ouais, ouais, c'est ça, 19h. Ouais. Et je serai en face d'une collapsologue.
Vous pouvez nous redire ce que c'est qu'un collapsologue? Moi, je n'ai pas bien compris.
C'est assez compliqué. Il y a un article qui va paraître de mon jus là-dessus, mais c'est aujourd'hui, ça se décrit comme une discipline. Hein, une discipline. Alors, une discipline qui est au croisement de plusieurs disciplines. Mais c'est celui qui décrit finalement un phénomène d'effondrement systémique. C'est-à-dire à la fois un effondrement de ce qu'il nomme la civilisation thermo-industrielle, c'est-à-dire d'un paradigme technologique de la société, par l'effet néfaste de la technologie sur le vivant. Et donc, c'est la manière de décrire un effondrement systémique à la fois économique, écologique, bien sûr, psychologique, social. Donc, ça retrace différentes dimensions d'un effondrement d'une forme de société ou de civilisation. Alors, à l'intérieur de la collapsologie, vous avez énormément de courants. C'est pour ça que je vais en faire un article bientôt là, qui va sortir. sur les différents courants de la collapsologie. Donc, il y a ce qu'on appelle les survivalistes aujourd'hui, ceux qui pensent qu'il est nécessaire de trouver des moyens de survie à l'intérieur de cet effondrement. Vous avez vous avez une branche écologique du collapse de la collapsologie. Vous avez aussi une branche philosophique. Comment finalement penser l'humain à l'intérieur d'un monde menacé d'effondrement. Donc, c'est tout ce courant-là.
Enfin, c'est complètement noir, ça vient de collapsus.
Ça vient de collapse en anglais. Tout collapse, c'est s'effondrer.
Mais vous là-dedans, excusez-moi.
Oui. Moi, j'essaye d'annoncer l'espérance.
Ouais, d'accord.
J'essaye d'annoncer l'espérance. Oui, non, c'est... Non, vous avez une branche qui est aussi... vous avez une branche dont un des leaders s'appelle Pablo Servigne, qui est une branche, qu'on pourrait dire, positive de la collapsologie. Il n'y a pas que du pessimisme dans la collapsologie. C'est-à-dire, il faut repenser nos modèles de civilisation. Donc, c'est l'occasion les menaces écologiques, économiques, pandémiques, etc., sont l'occasion de repenser un modèle de société.
Les actuels.
En gros, c'est on va dans le mur, comment on fait pour s'arrêter avant?
Exactement. Donc là, Pablo Servigne, vous avez quelqu'un, un philosophe qui dirige un centre à Lausanne, qui s'appelle Dominique Bourg, qui est un philosophe de l'écologie, mais qui est proche de ces collapsologues-là. Donc, si vous êtes intéressé aux collapsologues positifs, lisez Pablo Servigne, Dominique Bourg.
Bien, merci Père pour ce cours.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bonne continuation.
Merci.
Merci.
Bonne année.
Merci Père et bonne année.
Au revoir.
Au revoir. Et merci beaucoup.
Merci. Super. Beaucoup à vous.